Bonjour, le secrétaire général va maintenant vous parler de réunion des ministres de la Défense et puis il répondra à vos questions. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Demain et jeudi, les ministres de la Défense de l'OTAN vont se réunir ici à Bruxelles pour préparer notre sommet à venir en juillet. Nous allons commencer avec une réunion du groupe des plans nucléaires. Alors cela fait partie de nos consultations régulières afin d'assurer les conditions de sûreté, de sécurité, d'efficacité des forces nucléaires de l'OTAN. Plus tard, dans la journée, nous prendrons des décisions visant à moderniser la structure de commandement de l'OTAN pour nous assurer que les 29 pays membres de l'OTAN puissent agir à l'unisson de façon rapide et efficace. Je m'attends à ce que nous convenions de la création d'un nouveau commandement de forces interarmées pour l'Atlantique qui sera là pour protéger les lignes de communication maritime entre l'Amérique du Nord et l'Europe ainsi que pour protéger les infrastructures critiques. Ce commandement jouera un rôle crucial en cas de crise ou de conflit. 80% de la zone de responsabilité du SACEUR est maritime. Et nous devons anticiper les menaces maritimes potentielles, aussi bien en surface que sous-marine. Je m'attends à ce que nous convenions de mettre sur pied un nouveau commandement d'appui afin d'améliorer le mouvement rapide de troupes et d'équipements en Europe. C'est un élément essentiel de notre dissuasion et de défense collective. Un juste partage du fardeau est également vital pour notre sécurité commune. Les Alliés, en 2014, ont décidé d'atteindre la barre des 2% du PIB pour les dépenses de défense d'ici 2024. Ils ont également décidé d'investir plus dans des capacités et des équipements militaires essentiels. Ils ont décidé également de mettre à disposition plus d'hommes pour les missions et les opérations de l'OTAN. En d'autres termes, plus d'argent, plus de capacités et plus de contributions. L'année dernière, les Alliés ont décidé de faire un compte-rendu annuel sur la façon dont ils ont l'intention de progresser dans ces trois domaines. Le premier ensemble de compte-rendu est désormais finalisé et demain, nous allons faire le point des progrès réalisés. Après des années de budget de défense à la baisse, nous avons pu constater que depuis 2014, les dépenses en matière de défense sont à la hausse, aussi bien parmi les alliés européens que pour le Canada, ce qui fait un total de 46 milliards de dollars américains supplémentaires. Les différents plans nationaux indiquent que nous devons nous attendre à des augmentations futures également. En 2014, seuls trois alliés dépensaient 2% ou plus de leur PIB sur la défense. Cette année, nous attendons à ce que 8 alliés atteignent cet objectif ou le dépassent. Et d'ici 2024, nous pensons qu'au moins 15 alliés dépenseront 2% de leur PIB ou plus dans le domaine de la défense. Alors ce sont des progrès importants et c'est un très bon point de départ, mais il nous reste encore beaucoup à faire. S'agissant des capacités, les alliés européens et le Canada ont investi 19 milliards de dollars américains sur de l'équipement majeur au cours de ces trois dernières années. D'ici 2024, nous attendons à ce que 22 alliés investissent 20% ou plus de leur budget de défense pour des capacités majeures, ce qui correspond aux directives de l'OTAN. Cela devrait permettre d'améliorer grandement nos forces ainsi que leur état de préparation. Cela m'amène aux contributions, aux opérations, aux missions et aux activités, aussi bien OTAN que non-OTAN. Presque tous les alliés ont l'intention de maintenir ou renforcer leurs contributions. Donc, clairement, nous progressons dans ces trois domaines, qu'il s'agisse de l'argent, des capacités ou des contributions. Et je pense que la situation s'améliorera encore dans les années à venir. Mercredi soir, nous rencontrerons la haute représentante et vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, ainsi que nos collègues de la Finlande et de la Suède. Nous aborderons les plans de l'Union européenne s'agissant de défense, ainsi que la coopération OTAN-UE. Plus de dépenses en matière de défense et plus de capacités dans le cadre de l'Union européenne peut renforcer l'OTAN et contribuer à un plus juste partage des fardeaux, mais seulement si les efforts de l'Union européenne sont là en tant que complément et non pas pour remplacer l'OTAN. Jeudi, nous allons aborder la question de la posture de la dissuasion et de défense de l'OTAN, ainsi que notre rôle dans le cadre de la projection de la stabilité et la lutte contre le terrorisme. L'OTAN contribue à la coalition mondiale pour lutter contre Daesh, avec des vols de surveillance des AWACS, ainsi que la formation des forces irakiennes. La coalition connaît des succès importants, principalement dus à la résilience et au professionnalisme des forces irakiennes. Aujourd'hui, presque tout le territoire qui était auparavant détenu par Daesh en Irak et en Syrie a été repris. Plus de 7,5 millions de personnes ont été libérées. La coalition a désormais moins besoin de mettre l'accent sur les opérations et peut se concentrer plus sur le renforcement des capacités. Et de ce fait, le soutien de l'OTAN en matière de formation jouera un rôle encore plus important. Je m'attends à ce que jeudi, nous convenions de commencer la planification pour une mission de formation de l'OTAN en Irak. L'objectif sera de lancer cette mission lors du sommet en juillet. Nos années d'expérience en Afghanistan nous ont appris que le renforcement des forces locales est l'un des meilleurs outils à notre disposition pour lutter contre le terrorisme. Au moins 28 alliés et partenaires ont augmenté ou renforceront leur contribution en matière de troupes pour la mission de formation en Afghanistan cette année. Notre objectif est d'avoir 16 000 hommes sur place cette année par rapport aux 13 000 présents l'année dernière. C'est un message fort s'agissant de notre engagement sur la durée pour la sécurité en Afghanistan. Je serai maintenant très heureux de répondre à vos questions.
Second row. Commençons par Reuters au deuxième rang. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Vous venez de parler de l'Irak et de la mission de formation. Il y a déjà une petite mission de formation sur place. Est-ce que personnellement, vous appuyez l'appel des États-Unis à ce que la mission de formation soit plus importante et si oui, pourquoi? Réponse. Je pense que les ministres vont commencer la planification. Alors, pourquoi? C'est parce que nous voyons tous qu'il y a un besoin d'avoir davantage de formation et d'entraînement des forces irakiennes. En effet, la partie des forces, des opérations de combat est terminée et maintenant nous passons davantage au renforcement des capacités pour aider les Irakiens à assurer la stabilité de leur pays et pour leur permettre d'empêcher l'État islamique et les autres groupes terroristes de revenir sur leur territoire. Nous avons appris par l'expérience dans d'autres pays, notamment en Afghanistan et aussi par le passé en Irak, nous avons vu qu'il est extrêmement important de stabiliser le pays après la fin de la phase des opérations de combat. Donc, en transformant l'activité que nous avons maintenant, qui est relativement modeste, en une opération, nous aurons un meilleur cadre qui nous permettra d'utiliser la structure de commandement de l'OTAN, les procédures de constitution de force et aussi avoir un meilleur financement de ces opérations, ce qui nous permettra de renforcer cette activité d'entraînement et de formation. Mais ce que nous allons faire en Irak se fera en étroite collaboration avec la coalition et d'autres acteurs comme l'Union européenne. Et cela se fera sur la base de la demande qui nous a été adressée à la fois par le Premier ministre Al-Abadi, nous avons reçu une lettre de sa part il y a quelques jours, et aussi sur la base de demandes formulées par la coalition. Donc nous allons agir de façon plus importante pour aider les Irakiens à renforcer leurs institutions de défense, mettre en place des académies militaires et les aider dans différents domaines comme la lutte contre les engins explosifs improvisés et donc le renforcement des forces locales. Je rencontrerai d'ailleurs le Premier ministre Al-Abadi à Munich cette semaine.
Nawab Khan from the Kuwait News Agency.
Question. Une conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak se tient cette semaine au Koweït. Et la question se pose s'agissant du rôle de la coalition de lutte contre Daesh. Alors, j'aimerais savoir dans quelle mesure ces réunions dans la région sont importantes pour la stabilité de l'Irak et de la région de façon générale, car la coalition y participe. Réponse. Ces réunions, c'est très important car cela permet d'avoir un soutien régional à l'Irak, plus de financement également pour la reconstruction. Et cela permet également à la coalition de fournir un soutien militaire à l'Irak. Alors maintenant, ça ne se concentrera plus sur des opérations de combat car actuellement, la coalition n'a plus besoin de mener des opérations de combat dans la mesure où Daesh a été grandement affaibli et a presque perdu tout le territoire qu'il contrôlait auparavant. Mais évidemment, il faut garantir cette paix et de ce fait, il faut maintenant un renforcement des capacités, une formation des forces irakiennes. C'est ce que la coalition va faire et c'est ce que l'OTAN va faire également. L'OTAN participe et à cette réunion de la coalition au Koweït et bon nombre d'alliés finance également cette reconstruction en Irak. Nous sommes tout à fait conscients du fait que nous ne pouvons pas quitter l'Irak actuellement. Nous souhaitons que l'Irak reste un pays stable à l'avenir.
Bien, nous allons entendre une question de la part du Financial Times. Monsieur le secrétaire général, vous avez indiqué que la coopération en matière de défense avec l'Union européenne doit se faire comme un complément et non pas une alternative à l'OTAN. Les États-Unis ont dit la même chose. Est-ce qu'il y a des sujets de préoccupation à l'heure actuelle concernant la coopération avec la défense européenne? Et si oui, lesquels? Réponse. Il a été dit très clairement de la part de l'Union européenne par les dirigeants européens que les efforts de l'Union européenne en matière de défense doivent venir en complément aux efforts de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'une alternative aux efforts de l'OTAN, il ne s'agit pas d'une mise en concurrence des deux organisations. C'est pourquoi je me félicite des efforts qui sont faits pour renforcer la défense européenne, les efforts de l'Union européenne. En effet, ce sera dans l'intérêt de l'OTAN, de l'Europe et de l'Union européenne. En effet, avec une défense européenne plus forte, nous renforçons le pilier européen au sein de l'OTAN. C'est ce qui a été dit très clairement par les dirigeants européens. Ça n'aurait aucun sens, bien sûr, pour l'OTAN et l'Union européenne d'être en concurrence. 90% de la population de l'Union européenne sont des populations de pays membres de l'OTAN. Donc, les États membres sont pratiquement les mêmes dans les deux organisations. Les alliés qui sont membres de l'Union européenne savent à quel point la défense de l'OTAN repose sur l'OTAN. Donc, suite au Brexit, il y aura 90% du financement qui viendra d'alliés qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Les groupements tactiques aussi qui sont déployés sont menés souvent par des pays alliés qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc l'Union européenne ne peut absolument pas se substituer à l'OTAN. Mais le renforcement de ces efforts, ce sera plus de dépenses, plus de capacités et le renforcement donc de ce pilier au sein de l'OTAN.
Deuxième rang. Nous sommes tout à fait satisfaits du fait que les dirigeants de l'Union européenne et également des États membres de l'OTAN ne souhaitent pas que l'Union européenne se substitue à ce que fait déjà l'OTAN. Donc il n'y aura pas de, notamment par rapport à la nouvelle structure de commandement de l'OTAN, et puis également pour ce qui est du développement capacitaire. On ne peut pas avoir une liste de développement capacitaire, de besoins capacitaires pour l'OTAN, et une autre liste en concurrence de l'Union européenne, puisque ce sont les mêmes pays qui doivent mettre à disposition les capacités. Nous n'avons qu'un ensemble de forces. Alors nous ne pouvons pas tout dédoubler. On ne peut pas avoir des listes en concurrence pour ce qui est des besoins capacitaires. Et cela a été répété à de nombreuses reprises par l'Union européenne. Nous entretenons un dialogue étroit avec l'Union européenne et nous allons en discuter lors du dîner ministériel demain soir.
Jane's Defense, je voudrais rebondir sur la question qui était posée tout à l'heure concernant la coordination des capacités. Très bien. Est-ce que l'OTAN a un accès à des préoccupations concernant l'accès au marché ou à l'industrie avec les projets PESCO de l'Union européenne, sachant que les membres alliés qui ne sont pas membres de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et la Norvège notamment, pourraient être exclus? Réponse. Nous cherchons à éviter qu'il y ait de nouvelles barrières qui se créent à l'intérieur de l'OTAN. Ça, c'est quelque chose qui, précisément, motive aussi ce dialogue avec l'Union européenne. Ce que nous souhaitons voir, c'est une industrie de la défense qui soit plus compétitive, car ce serait dans l'intérêt de tous les alliés de l'OTAN. J'espère donc que l'Union européenne, grâce à la coopération au sein de PESCO, la coopération structurée permanente, mais aussi avec le Fonds européen de défense, il sera possible de s'attaquer à ce problème de fragmentation de l'industrie de défense en Europe qui l'affaiblit. Donc, tant que cela ne vient pas créer de nouvelles barrières, je pense que c'est une bonne chose que cette industrie de défense soit renforcée. Ça permettra d'avoir des capacités à un coût plus faible pour tous les alliés.
Deutsche Zeitung, troisième rang. Question. Monsieur le secrétaire général, qu'en est-il du partage du fardeau? Quand vous voyez l'accord de gouvernement pour la coalition allemande, est-ce que vous ne vous inquiétez pas de ce qu'il en est des dépenses de défense, car tout cela reste assez vague dans cet accord de coalition qui a été signé en Allemagne? Et il n'y aura pas non plus de gouvernement de coalition en place dans les semaines à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait inquiéter la communauté transatlantique de manière générale? Réponse. L'Allemagne reste un allié principal pour de nombreuses raisons, mais principalement dû à sa taille. C'est la plus grande économie européenne et l'Allemagne contribue de diverses façons à l'Alliance, notamment en termes de défense collective, puisque l'Allemagne mène un groupement tactique en Lituanie et l'Allemagne est présente en mer Égée, en Méditerranée, pour nos opérations maritimes. L'Allemagne est également l'un des pays chefs de file en Afghanistan depuis de nombreuses années, avec plusieurs centaines d'hommes. Je salue également le fait que l'Allemagne a commencé à augmenter ses budgets de défense. La décision prise en 2014 était de mettre un terme aux baisses budgétaires et de graduellement augmenter les dépenses pour arriver à 2%. Et l'Allemagne a respecté cet engagement et la tendance est claire vers les 2% du PIB. Donc je pense que cette tendance va se poursuivre, et cela est vrai pour tous les autres alliés de l'OTAN qui n'ont pas encore atteint les 2%. Je m'attends à ce qu'ils continuent à augmenter leurs dépenses. Et d'ailleurs, nous avons pu constater qu'au cours de ces trois dernières années, les progrès ont été importants, car il y avait des coupes budgétaires chaque année dans le domaine de la défense pour les pays européens membres de l'OTAN. Et maintenant, nous avons eu trois années consécutives d'augmentation. Et j'espère que cela va se poursuivre. C'est l'une de mes priorités depuis que je suis devenue secrétaire générale. J'aborde ce sujet au sein de toutes les capitales, avec tous les dirigeants politiques, pour m'assurer que cette tendance se poursuive et l'Allemagne doit également continuer. Alors, moi, je suis sûre que l'Allemagne va trouver un très bon gouvernement.
Wall Street Journal. La situation au nord de la Syrie ne concerne pas directement l'OTAN, mais il y a deux alliés, les États-Unis et la Turquie, qui sont dans des camps opposés autour de Afrin. Alors, est-ce que vous allez, de ce fait, vous trouver pris en marge de cette ministérielle par la nécessité d'essayer d'apaiser les tensions entre la Turquie et les États-Unis? Et est-ce que vous espérez que cette réunion de l'OTAN permettra d'atténuer les tensions au nord de la Syrie? Réponse. La situation en Syrie, et notamment au nord de la Syrie, préoccupe beaucoup tous les pays alliés. La situation humanitaire, le conflit qui se poursuit, les combats, tout cela nous préoccupe. L'OTAN fait partie de la coalition mondiale pour vaincre Daesh et nous apportons un soutien à cette coalition. Par contre, il n'y a pas de force de l'OTAN sur le terrain en Syrie. La Turquie a présenté un briefing à l'OTAN concernant son opération Branche d'Olivier. Ça a été fait la semaine dernière et j'étais en contact avec les dirigeants turcs, dont le président Erdogan, concernant la situation en Syrie et cette opération Branche d'Olivier. Je prévois que la Turquie continuera à informer les alliés. Il y a bien sûr des préoccupations sécuritaires légitimes de la part de la Turquie, qui a subi énormément d'attentats terroristes et qui, bien sûr, doit faire face à ces préoccupations sécuritaires. Bien sûr, la riposte doit se faire de façon proportionnée et mesurée. L'OTAN apporte un soutien à la Turquie. Nous renforçons leur défense aérienne. Il y a aussi des mesures d'assurance pour la Turquie. Nous avons des missiles Patriot et Sampte qui sont déployés également en Turquie. Donc, les pays alliés, durant cette réunion, vont discuter de la façon de mieux combattre le terrorisme, de continuer à apporter un soutien à la coalition mondiale contre Daesh, mais je ne m'attends pas à ce que l'un ou l'autre des alliés propose un rôle pour l'OTAN sur le terrain en Syrie.
Question. Commençant de Russie. Qu'en est-il des nouveaux commandements? Est-il vrai que les États-Unis et l'Allemagne ont proposé d'accueillir les deux nouveaux commandements qui sont proposés? Si ce n'est pas le cas, où allez-vous implanter ces commandements? Vous nous aviez dit que ces décisions seraient prises cette année. Réponse. Lors de notre réunion ministérielle, demain, nous allons décider de la structure. Et je m'attends à ce que les ministres de la Défense prennent une décision visant à établir un commandement de forces interarmées pour l'Atlantique, pour la logistique, et également un nouveau QG cyber au SHIP, qui sera implanté au SHIP, et également des décisions s'agissant de la nouvelle structure de commandement. Mais nous n'allons pas prendre décision au sujet de l'empreinte géographique, ni au sujet de l'implantation de ces nouveaux commandements. Ce sera une décision qui sera prise plus tard cette année. Demain, nous allons décider de la structure et nous déciderons de l'implantation géographique de ces commandements ultérieurement cette année.
Merci beaucoup, Andrei Gruditsky. Ukraine. Comme nous le savons, la Hongrie s'est opposée à la tenue d'une réunion de la Commission OTAN-Ukraine qui avait été prévue initialement. Alors j'aimerais savoir ce que l'OTAN fait pour essayer de faire redémarrer les travaux de cette Commission OTAN-Ukraine. Réponse. L'Ukraine est un partenaire proche de l'OTAN. Nous continuons à travailler étroitement avec l'OTAN. Nous appuyons l'intégrité territoriale de l'Ukraine et nous apportons un soutien tant politique que pratique à l'Ukraine. Le Conseil de l'Atlantique Nord s'est rendu à Kiev l'année dernière et nous avons eu différentes réunions dans le cadre de cette commission OTAN-Ukraine. Donc nous allons poursuivre ce soutien, ces relations étroites et je rencontrerai le président Porochenko un petit peu plus tard cette semaine à Munich. Nous savons quelles sont les difficultés concernant cette loi sur l'emploi des langues minoritaires et les difficultés qu'il y a à trouver une solution sur ce point, puisque l'Ukraine et la Hongrie ne sont pas d'accord. J'ai parlé à la fois avec le Premier ministre Viktor Orban et avec le président Poroshenko. Je les ai appelés à trouver une solution sur ce point, puisqu'il faut arriver à concilier la nécessité pour les minorités de pouvoir utiliser leur langue, mais aussi la nécessité d'assurer la prédominance de la langue nationale. Une proposition a été faite par la Commission de Venise, et je me félicite de cet avis qui a été rendu par cette Commission de Venise et des recommandations faites. J'encourage l'Ukraine à aller dans le sens de ces recommandations qui tracent la voie pour arriver à une solution à ce problème entre l'Ukraine et la Hongrie. Mais je le répète, l'OTAN, pour sa part, continue à travailler avec l'Ukraine, à lui apporter un soutien, et les alliés, dans leur ensemble, apportent un soutien.
Deutsche Welle, question. La question de Julianne concernait plutôt le fait de savoir s'il était compliqué pour l'OTAN, alors que vous ne jouez pas un rôle direct là, du fait que vous avez deux alliés forts, la Turquie et les États-Unis, qui actuellement connaissent des tensions. Et j'aurais aimé savoir si, lors de la ministérielle, vous allez aborder la question de l'achat des S-400 par la Turquie à la Russie. Est-ce que cela a été finalisé? Est-ce que cet achat a été décidé et il n'y a plus de discussion à avoir? Réponse. La situation en Syrie est très complexe et elle est très grave, notamment pour les Syriens eux-mêmes. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Des centaines de milliers ont dû fuir leur pays. Et la situation humanitaire en Syrie est très préoccupante. Et ça, c'est un problème non seulement pour la population sur place, mais également pour nous tous, car c'est un pays qui est proche de l'OTAN, proche des frontières de l'Alliance, et qui est donc frontalier de la Turquie, membre de l'OTAN. Je salue le fait qu'il y ait un dialogue entre la Turquie et les États-Unis visant à régler ces problèmes sur le terrain, donc dans le nord de la Syrie. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas présents sur place. Cela dit, nous soutenons la coalition mondiale et nous continuons évidemment à appuyer la Turquie, comme je viens de le dire. S'agissant des S-400, je pense que là, c'est à la Turquie de donner des précisions s'agissant du statut de cet achat. Mais nous félicitons du fait que la Turquie a désormais établi un dialogue avec deux alliés, la France et l'Italie, pour ce qui est d'un investissement potentiel dans d'autres types de systèmes de défense aérienne, EUROSAM ou SAMT. Ces deux pays collaborent afin de développer cette capacité et je me félicite du fait que la Turquie collabore désormais avec la France et l'Italie afin d'essayer d'acquérir ce système.
Question. Juste hier, le porte-parole des Peshmerga a dit que l'OTAN avait prévu de créer une nouvelle structure pour les Peshmerga qui serait chapeautée par l'OTAN. Pouvez-vous dire ce qu'il en est? Réponse. Suite à la demande que nous avons reçue de la part du Premier ministre Al-Badi et de la coalition, nous allons commencer à planifier une mission de formation en Irak. Et tout cela se fera en étroite coordination avec la coalition mondiale de lutte contre Daesh et également en appui du gouvernement à Bagdad qui nous a demandé de renforcer notre soutien. Je ne suis pas en mesure à ce stade de vous donner les détails de cette mission de formation, mais le Premier ministre Abadi souhaite assurer une meilleure professionnalisation des forces irakiennes, notamment avec des académies militaires, en développant les structures de formation militaire. Nous vous donnerons plus de détails par la suite. Là, nous sommes pour l'instant en train de répondre à cette demande qui nous a été adressée par Bagdad.
We go over there.
Journaliste du Danemark, question. Pour ce qui est du partage du fardeau, vous avez dit que d'ici 2024, 15 alliés atteindront l'objectif des 2% du PIB en matière de dépenses de défense. Est-ce que cela est satisfaisant d'après vous? Si oui, êtes-vous prêt à dire au ministre de la Défense américain que voilà, il n'y aura pas de meilleur résultat que cela? Ou est-ce que vous allez poursuivre les discussions pour essayer d'atteindre un objectif peut-être inatteignable? Ou est-ce que vous allez maintenant commencer à dire que cet objectif sera valable pour 2034? Réponse. Ce qu'on a pu constater jusqu'ici, c'est un bon départ, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons donc constaté des augmentations importantes en matière de dépenses de défense depuis 2014. Donc, il n'y a plus de baisse budgétaire et les budgets sont de nouveau à la hausse en Europe et au Canada. Et nous avons pu constater des progrès importants en 2017, puisque nous avons une augmentation de 5%, ce qui est bien plus important que ce à quoi nous attendions en 2014. Donc, nous constatons maintenant déjà qu'il y a une évolution très positive. Donc, nous avons désormais des plans nationaux qui nous ont été remis pour la première fois. Et ces plans indiquent bien que tous les alliés ont l'intention de continuer à renforcer en termes réels leurs dépenses en matière de défense. Évidemment, je salue cette situation, mais je continuerai à exhorter les alliés à respecter les engagements qu'ils ont pris. Et ça, je le ferai lors de toutes nos réunions avec tous les dirigeants. C'est une de mes priorités depuis 2014 et cela le restera. Pourquoi ? Nous devons déjà tenir nos engagements en matière non seulement de dépenses, mais également pour ce qui est des capacités et des contributions. Donc mon message qui s'adresse à tous les alliés est le suivant. Oui, c'est un très bon départ, c'est encourageant. L'OTAN tient ses engagements, mais nous devons poursuivre sur cette voie afin de tenir pleinement nos engagements pour ce qui est des dépenses, des capacités et des contributions. Voilà ma réponse.
Permettez, vous venez de nous expliquer que les alliés européens ont donné toutes les assurances sur la défense européenne. Je voudrais comprendre pourquoi les États-Unis sont si fâchés contre les Européens et en particulier contre la France. Est-ce qu'il y a un désaccord, une mésentente? Comment est-ce que vous pouvez gérer une alliance où les partenaires manquent de confiance les uns les autres? Et ma question vaut également pour la question qui a été posée par mes prédécesseurs sur les États-Unis et la Turquie. Manifestement, il y a un manque de confiance entre les deux. Comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre et à faire fonctionner une alliance dans laquelle il n'y a pas de confiance? Merci.
Eh bien, je ne dirais pas qu'il y a un manque de confiance. Ce que nous avons constaté, c'est que l'OTAN est à même de produire des résultats et de réagir de façon unifiée dans un environnement sécuritaire en évolution constante et avec de plus en plus de défis. Nous l'avons vu ces dernières décennies et nous l'avons vu particulièrement depuis 2014. En effet, en 2014, Nous avons vu que la Russie était prête à utiliser la force militaire contre l'Ukraine, son voisin, annexant la Crimée de façon illégale et déstabilisant le Donbass. Et puis nous avons vu Daesh contrôler une grande partie de la Syrie et de l'Irak. Et l'OTAN a réagi de façon très unifiée. Nous voyons que l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada répondent présents à l'appel. Le Canada, après des années de réduction de leur budget de défense, est maintenant en train de renverser cette tendance. Et les États-Unis renforcent leur présence, leur financement pour les équipements, pour les ravitaillement prépositionné, les fournitures. Nous voyons plus d'investissements, des contributions aux forces à haut état de préparation. Nous avons triplé la NRF, nous avons les groupements tactiques à l'est de l'Europe et nous avons renforcé notre posture de façon générale. Autrement dit, nous sommes en train de mettre en œuvre la plus grosse adaptation de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide et nous faisons cela tous ensemble, les États-Unis, le Canada et les alliés européens. Je suis impressionnée par ce que nous avons réussi à faire en si peu de temps, en seulement quelques années. Alors oui, il peut y avoir des divergences de points de vue entre dirigeants au sein des pays de l'OTAN. Ça n'a rien de nouveau. Mais la force de l'OTAN, c'est que, quelles que soient des divergences sur des questions politiques, le climat, le commerce, d'autres sujets, nous sommes toujours d'accord sur les tâches fondamentales de l'OTAN, qui est la protection et la défense les uns des autres. Et cela n'est possible que parce que nous faisons confiance à l'engagement de tous de se protéger les uns les autres. Je ne me souviens plus s'il y avait une autre partie à votre question. Oui, sur la Turquie, je crois que j'ai déjà répondu. Nous sommes bien sûr préoccupés par la situation en Syrie. La Turquie a des préoccupations sécuritaires légitimes. La Turquie doit réagir de façon proportionnée, mesurée. Et je suis heureux que la Turquie soit venue présenter un briefing à ce sujet ici.
Hello, Elia Kosin, Latvian Radio 4. Question.
Radio 4 de la Lettonie. Question au sujet de la présence américaine en Norvège. Il y a des troupes américaines proche de la frontière entre la Norvège et la Russie. Quel sera le rôle opérationnel à venir de ces troupes américaines? Est-ce lié à la politique arctique de la Russie? Réponse. Alors je pense qu'il est un peu exagéré de dire que ces troupes sont stationnées proche de la frontière avec la Russie. En fait, elles sont stationnées assez loin de la frontière avec la Russie. Mais ces troupes font partie de l'engagement américain pour la sécurité européenne. Je salue le fait que les États-Unis aient renforcé leur présence en Europe, notamment par le biais de forces qui sont là en rotation en Norvège, dans le centre de la Norvège, et cela est dû au fait que nous sommes confrontés à un environnement sécuritaire plus complexe, plus difficile. Alors, après des années de diminution de la présence militaire américaine en Europe, la tendance est renversée, mais cette présence reste proportionnée, défensive. Nous réagissons simplement à un environnement sécuritaire plus difficile qui a été déclenché par les actions de la Russie en 2014.
Thank you, Susanna.
Susanna Fraîche, Portugal. Toujours sur la question de cet objectif des 2% du PIB, certains pays disent qu'il ne faut pas regarder uniquement la quantité, mais aussi la qualité des investissements dans la défense. Je pense donc au cas du Portugal, mais aussi à d'autres pays qui n'ont pas encore atteint l'objectif, qui sont toujours en deçà de ces 2% du PIB. Dans votre évaluation des plans, est-ce que vous tenez compte donc effectivement de l'aspect qualitatif des investissements? Et est-ce que c'est un argument qui peut être présenté aux États-Unis et notamment en 2024, au moment où vous allez devoir dire si l'objectif a été atteint ou non? Réponse. Nous nous sommes engagés en 2014 à dépenser plus, mais aussi à dépenser mieux. Et les deux doivent aller de pair. Les alliés doivent investir davantage, mais nous devons aussi investir d'une meilleure façon et dépenser d'une meilleure façon. Donc je me félicite à la fois des augmentations des budgets de défense, mais aussi effectivement des efforts qui sont faits pour investir dans de nouvelles capacités, de nouvelles technologies, pour s'assurer que les pays alliés collaborent dans le développement de nouvelles capacités. Mais ça n'est pas un choix entre plus ou mieux. Il faut faire les deux ensemble. Et c'est précisément ce que nous faisons. Je me suis rendu au Portugal récemment. Et je suis heureux de voir que le Portugal a commencé à augmenter ses dépenses en matière de défense. Le Portugal, comme d'autres pays alliés européens, a été à même de faire repartir son économie, d'arriver à nouveau à une croissance, ce qui permet de dégager davantage de moyens pour financer notamment le budget de défense. Les plans nationaux qui sont présentés par les alliés nous montrent chaque année quelles sont les tendances. Et le message qui se dégage de l'étude de ces plans nationaux, c'est que tous les pays alliés ont prévu de continuer à augmenter leurs dépenses pour la défense en termes réels. Mais comme nous regardons les capacités et les contributions, nous regardons ce qui rentre, mais nous regardons aussi ce qui sort. Et nous allons regarder tout cela, les montants investis, les contributions et les capacités. Merci beaucoup. Nous en avons terminé pour ce briefing. Désolée de ne pas avoir pu entendre toutes vos questions, mais vous aurez d'autres occasions à l'avenir pendant ces deux jours. Merci.